Donc on est page 22 à 3. 22 à 3, vous prenez la colonne de droite à Mémar, ou Mars ou Ravashi.
Ça. Oui, mais on revient juste un peu avant pour se rappeler.
Donc je rappelle de quoi on parlait. On a parlé, le dernier concept qu'on a parlé, c'était un concept de Teruma. Je lui dis comme ça. Je lui dis que si je vais dans le champ de quelqu'un et je prélève la Teruma sans sa permission, il m'a rien demandé. Je prélève la Teruma sans sa permission. La Gemara par la suite a expliqué que c'est pas exactement sans sa permission, c'est que la personne m'a nommé Shliach pour prélever la Teruma. Il m'a dit, est-ce que tu peux prélever la Teruma dans mon champ? Mais il m'a pas dit de quelle catégorie de fruits je peux me servir. Donc moi je vais, moi je suis le Shliach, Yaakov il m'a dit, voilà, va dans mon champ s'il te plaît, prélever la Teruma. Il m'a pas dit quelle catégorie, vous savez, dans les fruits il y a des catégories, des fruits très beaux et des fruits moins beaux. Teruma on peut donner de ce qu'on veut. C'est le selon le feeling. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai donné la Teruma. Yaakov vient me voir, et il me dit, il t'aurait pu donner des plus beaux fruits. Rappelez.
T'as pris sans demander son avis.
Si. J'ai demandé son avis.
Mais il a pas pris
son avis. Yaakov m'a nommé Shliach. Il m'a dit, tu vas prendre des fruits. Mais Yaakov m'a pas dit quelle catégorie. Moi, je suis parti, j'ai pris. Yaakov, après, me voit, il me dit, t'aurais dû prendre des plus beaux fruits. D'accord? On sait pas si c'est ironique ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si on trouve des plus beaux fruits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sincère. La preuve, il y avait les plus beaux fruits. Si on ne trouve pas les plus beaux fruits, là c'est une preuve que c'était ironique. Et là tout de suite on attaque dans la Gemara, d'accord? Avant de reprendre la marquette d'Abaye et Rava, on va juste amener une petite histoire, d'accord? Pour illustrer cette idée qu'on vient de dire ici. L'idée qu'on vient de dire que ça dépend, est-ce que ça paraît ironique ou pas, ça va dépendre du contexte. Est-ce qu'il y a des plus beaux fruits ou pas? Et d'ailleurs, dans l'histoire, on va voir qu'il y a une exception, que selon certains avis, même si on trouve des plus beaux, il y a des plus beaux dans le champ, on considère que c'était quand même ironique. D'accord?
Et c'est étonnant parce que s'il n'y a pas de plus beaux fruits, il ne peut pas ironiser de la sorte.
S'il n'y a pas de plus beaux fruits?
Ouais.
Non, quand c'est ironique, ça veut dire, c'est comme quelqu'un a pris, il dit, ah, tant qu'à faire, tu aurais pu prendre les plus beaux fruits. Hein. En d'autres termes, c'est-à-dire, tu m'as pris les plus beaux, pourquoi tu as pris les plus beaux?
Que quand il y en a, mais s'il n'y en a pas.
Justement. Comme il n'y en a pas, donc quand il a dit
que... Quand il n'y en a pas.
Justement. Comme il n'y en a pas, comme il n'y a pas de plus beaux fruits. Donc quand il a dit, tu aurais dû prendre les plus beaux fruits, c'est une manière d'ironiser, c'est une manière de lui dire, je suis pas content que tu aies pris les plus beaux fruits.
Oui.
Tu aurais dû prendre plus beaux encore, hein. Si il y avait plus beaux, tu les aurais pris, hein.
Ah oui, c'est vrai.
Bon,
ça peut être une chose de plus. Bah à la maison, prends mon pognon et de lui pendant qu'il est.
Amemar ou Marzoutra et Ravashi. Et qu'il est où les Boussena? Donc Amemar et Marzoutra. Et Ravashi, trois Talmidei Chachamim, trois grands de la Gemara, Ikleu les Vustana, ils sont arrivés dans un jardin. Donc ils ne sont pas partis ensemble, mais ça s'est passé comme ça, ils ont marché, chacun sorti un peu se promener, et les trois sont arrivés dans un jardin. Boustan, enfin, Boustenaï, vous connaissez Boustenaï? Boustena, c'est un jardin.
C'est le même jardin?
Même jardin.
Ils se sont retrouvés dans le même jardin.
Quel jardin? Le jardin de Marie Bar Isaac. Le jardin de Marie, fils de Isaac. Pas l'Isaac, comme vous avez dit là. Marie Bar Isaac. C'est le nom de quelqu'un. Bon. Aïté, Harissé, Tamré, Vérimoné. Son Haris, le Haris de Marie Bar Isaac. Alors c'est quoi un Haris? Un Haris, c'est un métayer. C'est quoi un métayer? Un métayer, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un champ. Par exemple, j'ai un champ, mais j'ai pas le temps, j'ai pas la force de m'en occuper. Donc je paye quelqu'un, je paye M. Daniel, je dis voilà ce que vous voulez pas vous occuper de mon champ. Et Bezrat Hashem, on se partagera sur les résultats.
Il a mis en gérance.
D'accord? On se partagera sur les résultats. Donc c'est-à-dire, c'est pas, monsieur Daniel, c'est pas exactement mon employé. C'est pas mon employé. C'est presque mon associé. Mais c'est pas mon associé.
C'est une gérance.
D'accord? C'est pas exactement l'associé. Le concept que j'ai métayé, c'est qu'on se partagera, sur cette récolte.
Ou alors il est franchisé, le mec.
Eh bien, ça s'appelle un métayé. Alors, eux, ils arrivent dans le champ. Dans le jardin. Mais quand il y a un poustan, c'est-à-dire un jardin avec des arbres fruités, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le métayer de Marie Bar Isaac qui sort. A été harissé Tamré Vérimoné. Il aura amené des dattes et des grenades.
Un verger, je crois.
Bon, vous pouvez traduire ça par un verger, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne traduction. C'est un pardès, la vraie traduction en hébreu.
Un jardin.
C'est plutôt un jardin, mais un jardin avec des arbres fruités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le métayer leur amène des fruits. Il leur amène des dattes et des grenades. Quel problème on peut avoir ici, d'après vous? On va analyser ensemble. Attendez, ne regardez pas la suite de la Gemara. Quel problème on peut avoir?
Pourquoi il amène des dattes?
Bon, il leur amène des fruits.
Cadeau.
Il leur amène un cadeau.
À qui ils appartiennent?
Ah, bah, c'est le métayer.
Ah, vous mettez ou c'est...
Oui, mais si, il est, mais métier, attends, il est
alors,
gérant.
Alors, on analyse.
Mais la terre, elle est acquise.
C'est pour ça que je m'arrête tout de suite, avant d'avancer dans la Gemara, pour qu'on analyse ensemble, voir d'après vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces fruits-là, ils appartiennent à qui?
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Ça tourne.
Alors, je vous explique le problème qu'on a ici. Le problème qu'on a ici, c'est que le métayer, il a le droit de partager les fruits, seulement une fois que la récolte est déjà finie. C'est-à-dire qu'une fois que la récolte est finie, là, à ce moment-là, on ramasse tout, d'accord? Et là, on dit, bon, ben, voilà, c'est 40%, mais 60%. Très bien, c'est là qu'on partage. Mais tant que la récolte n'est pas finie, le métayer ne peut pas prendre, ça ne lui appartient pas. Le métayer, jusqu'à ce moment-là, il a le titre d'un employé. Il n'a pas encore le... Ça ne lui appartient pas, c'est pas un associé. Un associé, c'est différent. Un associé, il peut servir du champ quand il veut. Un métayer, c'est pas la même chose. Alors le problème, c'est quoi ici? C'est que quand le métayer leur amène des dattes et des grenades, d'accord? Alors, d'un côté, on peut dire que... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara. D'un côté, on peut dire que le métayer, il a pris, par exemple, 1 kg de dattes, mais il le comptera après par la suite. C'est-à-dire que quand, par exemple, par la suite, on mettra voilà 40%, voilà 60%, ouais, le métayer, il sera honnête, il enlèvera des 40%, il enlèvera 1 kg, il dit voilà, ça c'est le kilo que j'avais pris pour donner un tel. Il est honnête. Enfin, possible que oui, possible que non. Hein, c'est possible que... Non, c'est pas malhonnête, c'est possible que bon, il se dira, ouais, moi je travaille ici toute l'année, ça va, je peux me servir, qu'est-ce qu'il y a?
Et puis c'est les copains de mon propriétaire.
Et en plus c'est les copains de mon propriétaire, voilà, donc on peut aller très loin comme ça. En plus c'est des rabbanim. Des rabbanim. Des gdolim.
Pourquoi pas?
Des gdolim. D'accord? Donc on va leur donner. Alors, vous allez voir ici que dans les trois chachamim qui étaient là-bas, on va avoir deux manières de gérer la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, rappelez-vous, le métayer leur sert des dattes et des grenades. Oujda Kamayou, donc il les a posés devant eux. Amemar Veravashi Achle. Amemar et Ravashi ont mangé des fruits. Pourquoi? Parce que eux, ils ont dit, certainement le métayer est honnête. Et il dira plus tard au propriétaire du champ. Donc il déduira ça du compte. Vous me suivez? Donc il n'y a pas de problème. Amemar. Terouma? Non, ça le métayer, c'est quelqu'un de religieux, donc c'est bon, ils se sont dit certainement si ce qu'ils nous donnent, c'est déjà prélevé. Ah, c'est pas...
Ouais, mais si, ils n'ont pas récolté encore le... Comment ça peut être
prélevé?
Non, c'est pas... Il les a pas récoltés devant lui. Il les a pas récoltés devant lui, il leur amène... Eux, ils arrivent dans un jardin, et lui, il voit des rabbanim assis comme ça. Il leur dit, voilà, tenez, c'est la récolte, il leur amène. Non, c'est quelqu'un de religieux, donc on sait que ce qu'il t'amène, c'est bon, c'est cachère. Ça, dans la Gemara, on veut... C'est pas dans cette Gemara, on a une chazaka que quand c'est un chaver, quand c'est quelqu'un de religieux qui vous amène quelque chose, on n'a pas besoin de poser de questions.
Mais on ne sait pas qui c'est le métier.
Par exemple, vous avez quelqu'un de religieux qui vient, qui vous amène une corbeille de fruits. Vous n'avez pas besoin de lui faire honte et de lui poser la question, est-ce que le maaser a été prélevé? S'il vous amène, c'est que c'est bon. Bon, donc, Amemar et Ravashi ont mangé. Mais, Marzoutra, le troisième rave, Loachil, il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé? Parce que lui, il s'est dit que peut-être que puisque le métayer n'a pas demandé la permission au propriétaire, alors peut-être que le métayer oubliera de le dire, va omettre de dire au propriétaire après qu'en vérité il avait déjà pris 1 kg de fruits. Donc du coup, le compte qu'on fera après, par exemple 40-60, sera faussé. Donc, Marzoutra n'a pas voulu se servir. Maintenant, écoutez bien la suite de l'histoire. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire deux manières de voir les choses. Est-ce qu'on fait confiance au métayer ou pas? Bon. Peut-être oui, peut-être non. Quand je dis, c'est pas faire confiance. Ça veut dire, est-ce qu'on pense que le métayer risque d'oublier par la suite de dire à son propriétaire? Peut-être oui, peut-être non. Bon, deux avis. C'est pas fini. Non.
D'un côté, vous dites, quand il apporte les fruits, donc il est honnête parce que c'est un religieux.
C'est pas une question de voleur ici. C'est une question de qu'il n'a pas eu la permission. Le propriétaire, c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Il a préjugé que le
propriétaire soit peut-être d'accord. Pas seulement ça. Il a préjugé que par la suite, un mois plus tard, quand on finira les récoltes,
on fera le compte.
D'accord. C'est quelqu'un d'honnête. Il le fera peut-être. Mais il n'a pas demandé la permission.
Mais il a le droit de faire comme ça.
Ah. Bonne question. Normalement, il n'a pas le droit. Normalement, le métayer a le droit de se servir qu'au bout du compte. Dès qu'on fait la récolte, 40, 60. Donc, lui, il s'est servi avant. Pourquoi il s'est servi avant? Parce qu'il travaille là-bas. Et là, de toutes les façons, j'enlèverai après de mon compte. Donc, Marloket, Amemar, Marzoutra. Marloket, s'il vous plaît. Marloket, Amemar, Marzoutra et Ravashi. D'un côté, on a Amemar et Ravashi qui ont mangé des fruits. Et d'un autre côté, on a Marzoutra qui n'a pas mangé. Amemar et Marzoutra et Ravashi, pardon, qu'est-ce qu'ils pensent? Eux, ils pensent qu'on fait confiance au métayer, qu'il fera le compte après. Qu'est-ce qu'il pense Marzoutra? Marzoutra, il pense que non. Pourquoi? Parce qu'il dit que le métayer n'a pas demandé la permission explicitement au propriétaire. Je ne sais pas, peut-être non. Donc, tant que je ne sais pas qu'il a demandé la permission, je ne prends pas. Ensuite, Ad-Ahi, entre-temps, Atamari Barisak. Entre-temps, est venu Marie Barisak. Marie Barisak, c'était qui, monsieur Siboni? Le propriétaire du champ. Ashkechinu, et il les a trouvés. Il a vu, imaginez-vous la situation, il voit trois talmides chamim en flag, en train de manger des grenades. Après vous, ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a deux semaines, on a dit qu'on reconnaît, un propriétaire reconnaît ces fruits.
Oui.
Il les a vus dans le jardin, en train de profiter des bons fruits. Alors, on va parler d'Arissé. Dès qu'il a vu ça, il a dit à son Aris, il a dit à son donc métayer, Ama, il a dit les où les rabbanan Mehanar Shapirta. Il a dit, pourquoi tu n'as pas amené au rabbin Mehanar Shapirta de ces fruits qui sont mieux? Il lui a montré avec le doigt de ces fruits qui sont mieux. C'est-à-dire qu'il y avait des fruits qui étaient plus beaux. Ah, vous me suivez là? On n'a plus le problème de tout à l'heure. Ah non, là on sait.
C'est pas ironique.
Ça peut plus être ironique là. Parce qu'il y a des plus beaux fruits, il lui a montré.
Non, mais ça peut aussi être ironique, mais en ce cas, il aurait
dit non. Voilà, justement. Et, alors, Amroul et Amemar, et Ravashi, les Marzoutra, Amemar et Marzoutra, ils disent à Ravashi, Ashta, Ama et le Achilmar. Maintenant, pourquoi vous mangez pas, Marzoutra? Pourquoi vous mangez pas? Véa, Tania, voilà, c'est enseigné, et on a vu par rapport à la Terouma, Ibn Itseou, Yafot Mehen, Trouma Totrouma. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la Terouma? Que si on a trouvé des plus beaux fruits, on considère que c'est pas ironique, mais c'était sincère. Et cette terouma sera une bonne terouma. Donc ici, puisque le propriétaire t'a montré avec le doigt des plus beaux fruits, et qui étaient effectivement des plus beaux fruits, ça veut dire qu'il a prouvé, pas de manière ironique, mais de manière sincère, qu'il était d'accord, il était consentant à ce qui s'est passé. Et puisqu'il est d'accord, les autres amis des Khamim, ils sont tournés vers Marzoutra, ils disent, maintenant, tu peux manger tes fruits maintenant. Voilà, ce propriétaire, il est venu, il a montré, il a dit, pourquoi t'as pas pris des plus beaux? Ça veut dire qu'il a montré qu'il était d'accord. Alors pourquoi tu manges pas des fruits? Et toujours Marzoutra, il mange pas. Il va manger. Il faut qu'il explique, là. Tu vas parler, quand vous dites. D'accord? Pourquoi il mange pas? Alors, Amar le Ouachi, Marzoutra, leur a répondu comme ça. J'ai fini le cas, prendant la question. Marzoutra leur a répondu comme ça. Il leur a dit, Ahi Amar Rava. Il a dit, ainsi a dit Rava. Vous allez voir pourquoi pour la Gemara, c'est très important de raconter cette histoire. Lo Amru Kelach Etzel Yafot. Les Chachamim m'ont dit que quand la personne dit, t'aurais pu prendre des plus belles, et que ça prouve une sincérité, d'accord, et c'est pas du tout une manière ironique de le dire, ils ont dit que ça marche, et là, les Inyan Trouma Bilvad, seulement par rapport à la Terouma. Pourquoi? Mishum de Mitzvah ou Venichale. On va rejoindre un petit peu ce que M. Bismuth a voulu dire. Je sais pas si vous avez pas exactement dit ça, mais apparemment, je pense que vous voulez dire ça. Mishum de Mitzvah ou Venichale. Puisque c'est une Mitzvah, et comme c'est une Mitzvah, ça lui fait plaisir. C'est-à-dire, comme on sait que les gens, ils aiment faire des mitzvot. D'accord? Même s'ils ne le montrent pas, mais au fond d'eux, un juif, quand on a fait une mitzvah, il est content. Donc, puisque quelqu'un, il aime faire une mitzvah, il aime faire une mitzvah le plus beau possible. Quand le métayer, enfin, quand moi, par exemple, j'ai prélevé la terouma pour Yaakov, et Yaakov me dit, t'aurais dû prendre des plus beaux, et qu'effectivement, il y a des plus beaux, là, on dit, certainement, c'était sincère. Pourquoi? Parce qu'un juif, il aime bien faire les mitzvot.
Pourquoi la terouma, ça les concerne, aux trois?
Quoi? Non, ça ne les concerne pas. Nous, on a voulu amener la preuve de la terouma pour le cas des trois. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Terouma? Dans la Terouma, on a vu que quand il dit « t'aurais dû prendre des plus beaux » et qu'il y a des plus beaux, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est sincère et que c'est pas ironique. Alors qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il dit Ravar? Ravar dit non. Il dit pas du tout. Il y a une différence entre la Terouma et le cas ici du jardin. Dans le cas de la Terouma, c'est une mitzvah de prélever la Terouma. Donc comme c'est une mitzvah, la personne veut bien faire la mitzvah. Et quand il dit « t'aurais dû prendre des plus beaux », c'est-à-dire sincèrement, il se dit « j'aurais eu de bien faire la mitzvah, j'aurais dû mieux la faire ». Aval acha, mais dans le cas d'ici, rappelez-vous le contexte. Ouais. Trois rabbanim, métayer, propriétaire. Imaginez-vous la situation. C'est possible que Mishum Ksifuta ou Damarachi. C'est possible qu'il a dit ça parce qu'il avait honte. Il avait honte. Il s'est dit peut-être les rabbanim ils ont remarqué qu'il y avait des fruits plus beaux. Donc, devant son métayer, il a dit, t'aurais dû prendre des fruits plus beaux.
Donc on a un doute.
Donc, on sait toujours pas. Alors là, on a un troisième paramètre. Jusqu'à présent, c'était ou ironique ou sincère. Là, on a un troisième paramètre qui s'appelle la honte. Que des fois, une personne, parce qu'il a honte, il peut se retrouver à dire des choses qu'en vérité, il n'aurait pas dit. Ça veut dire qu'après, il va prendre le métayer, il va dire, goûte-moi bien, tu sers à personne des fruits, tu m'as compris?
Mais devant les
rabbanim, il avait honte, d'accord? Donc il a dit, ah, t'aurais dû prendre des plus beaux fruits, c'est bien, d'accord?
Oui, bon. De finesse. Je vois très bien.
Comme il a dit tout à l'heure, la folie des grandeurs, c'est ça? Bon. D'accord. Donc, on a eu ici un nouveau paramètre. C'est pour ça qu'Agmara nous a raconté cette histoire-là. Pour nous montrer qu'on a trois paramètres ici. On a un paramètre, des fois ça peut être, des fois quand j'ai dit aujourd'hui prendre des pilbots, des fois ça peut être ironie, des fois ça peut être sincère, et des fois ça peut être un signe de honte. Alors comment on fait dans la lacha, concrètement? Dans la lacha, on fait comme ça. Quand il s'agit d'une mitzvah, par exemple la terouma, et que je dis, Yaakov, il me dit, Mendy va prélever la terouma dans mon champ. Je vais prélever la terouma. Après, il vient me voir, il me dit, tu aurais dû prendre des plus beaux fruits. Et moi, je sais qu'effectivement, il y avait des plus beaux fruits dans le champ. Là, dans ce cas-là, la terouma est bonne. Pourquoi? Puisqu'on estime que là, il n'y a pas de honte. D'accord? Ironique, c'est pas ironique, puisqu'il y a des plus beaux fruits, donc c'est sincère. Pourquoi c'est sincère? Parce que certainement que comme les gens aiment bien faire les mitzvot, donc certainement qu'ils voulaient mieux faire la mitzvah. Ça c'est si c'est une mitzvah. Alors si c'est pas une mitzvah, c'est seulement des gens qui sont venus dans le champ, on leur a donné à manger comme ça, mais c'est pas une mitzvah, c'est de la politesse. Là dans ce cas-là, on a un troisième paramètre qui s'appelle la honte. Et c'est possible que, même si la personne dit t'aurais dû prendre des plus beaux, et il y a des plus beaux, c'est pas forcément que c'est sincère. Peut-être que c'était seulement par rapport à la honte qu'il a dit ça. Donc Marzoutra leur a dit, voilà pourquoi moi, Marzoutra, je n'ai pas mangé des fruits. D'accord? Quoi qu'il en soit, donc vous avez vu qu'il y avait une marloquette, les autres ont mangé des fruits, parce que les autres ne tiennent pas de ça. Les autres disent, nous on mange, parce qu'on dit que le métier s'arrangera après avec le propriétaire, et qu'il déduira ça des 40% de la fin. D'accord? Pas de problème.
Je m'excuse, mais dans ton cas, à l'avance, c'est pas évident. Le gars, il dit, tu aurais pu prendre les plus beaux fruits, et il y a effectivement des plus beaux fruits.
Le cas de la terouma?
Oui. Dire que c'est sincère, c'est pas évident. Ça, c'est... Il peut avoir honte qu'en vérité il voulait pas donner, que il a donné quand même.
Honte de qui?
Parce qu'il peut se sentir mal.
Non,
que...
je t'ai pas compris le gars. Yaakov, tu viens me voir, tu me dis Mendy, d'accord, tu es rabbin, est-ce que tu peux venir dans mon champ prélever la terouma? Je sais pas comment on fait. Je viens dans ton champ, oui. Je prélève la terouma. Donc tu m'as envoyé, tu comprends?
Oui.
Je prélève la terouma, ensuite il s'avère que il y avait des plus beaux fruits. Donc toi, Yaakov, tu me vois, tu me dis, Mendy, j'ai remarqué que tu as pris la terouma déjà, mais tu aurais dû prendre des plus beaux fruits.
Oui. En quoi c'est sincère?
D'accord. Et moi je vois qu'effectivement il y avait des plus beaux fruits. Alors là, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Elle nous dit, puisqu'il s'agit d'une mitzvah, et qu'il y avait des plus beaux fruits, donc on considère que tu es sincère. D'accord? Ah oui, c'est logique. Non. C'est tout à fait logique.
Non, psychologiquement, tu pourrais faire qu'il n'était pas content qu'il ait pris la terouma, etc.
Bon, on te dit que s'il y avait des plus beaux fruits, s'il y avait des plus beaux fruits, d'accord?
Là, il l'a envoyé. S'il n'y a pas de plus beaux fruits, ça veut dire que le gars, il est...
S'il n'y a pas des plus beaux fruits et que tu me dis, tu aurais dû prendre des plus beaux fruits,
mais là, il connaît pas tout le champ, lui. C'est pas qu'à dans cet endroit du champ.
Pourquoi tu me dis pas là, mais quelqu'un il est content de faire une mitzvah?
Oui.
Alors ça marche pas là.
Non, mais
il
quand...
est content de faire une mitzvah.
Mais il voulait faire mieux.
Si il me dit t'aurais dû prendre des plus beaux fruits, qu'il n'y a pas de plus beaux fruits, il n'y avait jamais de plus beaux fruits, j'ai fait le tour du champ.
Oui.
Donc là tu me prouves que tu étais ironique quand tu dis ça. D'accord. Et que tu es pas content que j'ai donné les plus beaux fruits du champ. Donc dans ce cas-là, ce que je devrais faire, je devrais aller chez le Cohen, reprendre ces fruits-là, les ramener dans le champ. Seconde. Reprendre ces fruits-là et prendre des fruits de plus basse gamme. Parce qu'il faut bien comprendre ce concept-là. Parce que je vois qu'apparemment, c'est mal passé ce concept-là. La terouma, vous pouvez prendre n'importe quelle gamme de fruits.
1,40, 1,60.
Non.
Je ne parle pas du volume.
Je parle pas du volume. Je parle de la qualité. Tu peux prendre la basse qualité, il n'y a pas de problème. C'est cachère.
C'est pareil, ça marche.
Seulement après, c'est une question de cœur que tu donnes. Hein,
oui.
On est bien d'accord.
Aussi.
C'est pour ça qu'il y a une nuance ici. Parce que c'est ambigu. Tu comprends? Quand tu as pris celui, tu aurais dû prendre des plus beaux. D'un côté, tu peux dire qu'il a envie de bien faire la mitzvah, mais d'un autre côté, tu peux dire peut-être qu'il n'est pas content, que bon, ça va, c'est une mitzvah, mais il ne faut pas trop non plus aller trop loin. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils ont fixé comme règle, les chachamim? S'il y avait plus beau, on estime que la personne veut bien faire une mitzvah, donc c'est bon. S'il n'y a pas plus beau, en ce cas-là, c'est clair que c'était ironique, et que ça prouve qu'il n'était pas content qu'on lui a donné ses beaux fruits-là.
Très bien. D'accord.
Maintenant, on revient à notre sujet.
On peut discuter comment ils ont fixé leur règle. C'est quelqu'un qui peut pouvoir faire l'intéressant devant les gens, et ça, c'est un peu.
Il n'y a pas de gens ici, ils sont à deux.
Mais devant l'autre personne.
Pas du tout, c'est pas intéressant. Tu m'as envoyé pour tu m'as envoyé.
Je fais genre, je veux faire le religieux, je t'ai envoyé pour faire le truc.
C'est fini.
Tu prends les plus beaux fruits, tu me prends les fruits, et je te dis ça, peut-être je t'ai dit, mais j'aurais pu prendre les plus beaux. En vérité, je le pense pas. Je suis bien content que tu n'aies pas pris les plus beaux, mais en même temps, je fais l'intéressant par rapport à toi. Tu prends pour un...
On dit pas ces paramètres. Tu m'as envoyé.
Alors, tout à l'heure, tu me sens la honte, et là, c'est
Non,
pas
mais
la honte,
là, le paramètre de la honte, on ne l'applique pas quand il y a une mitzvah. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de troisième personne. Il n'y a pas de tierce personne ici.
Il n'y a pas de témoin.
Tu m'as envoyé. Tu m'as dit, Mendy, est-ce que tu peux aller prélever? D'accord? C'est interne. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me le dis en face. Le seul problème, c'est que la personne m'a dit une phrase qui était ambiguë et après elle est morte.
Quelque part tu grognes.
Elle est morte, là, imagine-toi. Parce qu'on a qu'à lui demander, on lui dit, monsieur, vous étiez ironique ou sincère? Il est mort. Ah.
Il a un arrêt cardiaque, il est mort.
Arrêt cardiaque, mort. D'accord. Oui, pas du tout. Oui, mais si tu vas me dire que c'était ironique, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'était pas d'accord de donner ces beaux fruits-là. Donc on doit aller chez le Cohen, on dit monsieur le Cohen, vous rendez les beaux fruits, et on prend des fruits de plus basse qualité parce qu'il n'était pas d'accord.
Parce qu'au niveau de l'héritage,
quand tu
hérites d'un champ, il faut qu'il soit prélevé de la trouma ou pas ?
Il faut reprélever. Et peut-être que les héritiers ne veulent pas prélever des plus beaux fruits. Les héritiers disent non, on ne veut pas donner des plus beaux fruits. Tu comprends qu'il peut s'agir des tonnes ici. Toi tu t'imagines un kilo, mais c'est pas un kilo, c'est des tonnes qu'il peut s'agir. D'accord. Il dit mais attends, t'es fou quoi, tu as pris la meilleure récolte. Non, ça va la tête ?
Je suis d'accord. Mais non, mais je suis d'accord avec ça. Ce que je discute. Mais s'il y aura mise en tranché, c'est pas de problème. Mais ce que je discute, c'est le fait de dire truc pour les plus profits alors qu'il y en a, ça veut dire que c'est sincère. C'est pas évident. Psychologiquement, c'est pas évident.
Si. Bon, là c'est évident.
Bon, c'est évident.
Si quand tu dis tu aurais dû prendre les plus beaux fruits et qu'il y en a et qu'il s'agit d'une mitzvah, et que c'est une affaire interne, comme a dit M. Bismuth.
Par rapport à toi, je fais l'intérêt.
C'est interne. Mais non, elle n'avait pas. Dans ce cas-là, on ne fait jamais.
T'es missionné.
Tu m'as missionné. Tu m'as missionné pour faire une. C'est interne.
Pas missionné forcément pour prendre les.
Bon, alors effectivement, Yaakov, dans ce cas-là, si c'est un paramètre que par exemple, t'es parti voir un grand racham pour lui demander de prélever ta terouma, et que là il y a un paramètre de honte, ben il faudra appliquer ce paramètre aussi. C'est ce que je te dis. On est bien d'accord. Bon, il ne faut pas chercher la petite bête.
Imagine que moi je suis pas de ça. Passe ton temps à chercher la petite bête.
Tâche ma vie. Évidemment, voilà, on a eu
petite bête à lui, mais les miens, il est
mort. On a eu trois paramètres. On a eu sincérité, d'accord, ironique et honte.
Et je dis, il y a gaffe.
Alors bien sûr. Si maintenant tu me dis qu'il y a un certain cas dans lequel tu penses que même dans une mitzvah on peut appliquer le concept de la honte, il faut l'appliquer. Mais a priori, comme c'était M. Bismuth, c'est une affaire interne en général. C'est des choses qui se règlent de manière interne. Tashma, viens, écoute. Et là, on va amener une preuve pour abayer. On va avoir deux preuves maintenant pour abayer. On va avoir une première preuve qu'on va casser. Et après, on aura Bezrat Hashem, la preuve finale. D'accord ? Preuve finale. Et la lacha sera comme abayer. Je vous rappelle, c'est quoi la marloquet ? Vous avez une question, M. Daniel, je crois ? Non. D'accord. On avait une marloquet. C'est quoi la marloquet ? Yehush Shelomidat. D'accord ? C'est quoi Yehush Shelomidat ? C'est-à-dire Yehush rétroactif. Je trouve un objet dans la rue, d'accord ?
Il m'appartient.
Je ne sais pas si le propriétaire l'a abandonné ou pas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si le propriétaire s'est déjà rendu compte. Et j'ai aucun moyen de savoir, parce que si je savais qui était le propriétaire, je l'aurais rendu. D'accord ? Mais je pense que le propriétaire, qu'il se rende compte aujourd'hui, demain ou dans 10 jours, dès qu'il va se rendre compte, il va lâcher l'affaire. Donc, est-ce que je considère que depuis maintenant, je peux me servir ? Parce que je dis que c'est rétroactivement, je peux me servir maintenant. Ou je dis non, tant que tu ne sais pas pertinemment que le propriétaire a abandonné, statistiquement, donc par exemple, on va attendre une semaine, tu peux pas te servir. Marloquet, Abaye et Rava. Rava dit révolutionnaire, il dit Yehu je crois actif, ça marche. Abaye dit Yehu je crois actif, ça ne marche pas. Là on va mettre une preuve pour Abaye. Que le concept du rétroactif ne marche pas. Regardez bien la preuve. Tashma, viens écoute. On va mettre une preuve du concept de la Touma. Vous savez qu'il y a un concept de la Touma. On va dire un pasouk. Vous avez prenez dans la page Gemara, vous avez à la droite de la page. Droite de la page. Vers le bas de la page, d'accord, vers les deux tiers de la page, vous avez écrit Torah Or Hashalem. Vous avez la droite de la page, droite de la page. Torah Or Hashalem. Descendez un peu plus loin, monsieur. Oui, voilà. Et là, vous avez le numéro Bet.
Ah, d'accord.
C'est un passage qui est écrit dans Vaikra. C'est écrit comme ça. Vechi Yutan Maïm, c'est à propos de l'impureté. Vechi Yutan Maïm Alzera. Quand on mettra de l'eau Alzera, sur quelque chose qui a été planté. D'accord ? Sur une semence, ça veut dire que comprenez quelque chose qui a été planté. Venafal minivlatam alaf, et ensuite va tomber de minivlatam, ça veut dire donc d'une. Comment traduire ça ? Minivlatam, ça veut dire donc d'un reptile, par exemple, alaf sur cette semence-là. Qu'est-ce qu'il dit le verset ? Tameu lachem, là il sera impur. Vous regardez bien le verset, vechiyuta naimalzira. Alors ça veut dire quoi ? De quoi on parle ici ?
Mais la semence est plantée.
Non, elle n'est pas plantée.
Ah.
Justement. Pour ça, je vous explique de quoi on parle. Il faut savoir un concept très important dans l'impureté. L'impureté des aliments. Porter des aliments. Les aliments, quand je parle des aliments ici, je parle des aliments qui ont été plantés. Par exemple, des fruits, des légumes, des récoltes, tout ce que vous voulez. D'accord ? Tant que la récolte est attachée au sol, ou bien attachée à l'arbre, elle ne peut pas avoir l'impureté. C'est-à-dire que même si vous avez, d'accord, je sais pas, vous avez un reptile mort qui vient et qui touche le. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que tant que c'est attaché au sol, ça ne peut pas prendre l'impureté. Une fois que c'est détaché du sol, on l'a détaché, tac, la récolte est là. On a besoin d'un autre paramètre pour que ça puisse prendre l'impureté. C'est la Torah qui le dit. Vechiyutan ma'im alzera. Il faut qu'il soit rincé. Il faut que l'objet soit rincé.
Mouillé.
Mouillé, rincé. faut qu'il soit mouillé par de l'eau.
Ou c'est
exactement. Alors, la Torah, elle parle explicitement d'eau. D'accord. Marcherine.
Marcherine.
C'est toujours dans Marcherine. Il y a un traité entier qui s'appelle Marcherine qui parle de ça. Il faut qu'il prenne de l'eau une fois qu'il a été enlevé, que la récolte a été faite. Il prend toujours pas l'impureté. À quel moment il prend l'impureté? Il faut qu'il a été rincé ou lavé. Avec quoi? Avec de l'eau, avec de la rosée. D'accord. La Torah dit explicitement de l'eau. Maintenant, dans la traité Marcherine, les Chachamim ont appris que ça peut s'étendre à d'autres choses. C'est à quoi ça s'étend? Ça s'étend donc de l'eau, de la rosée, du lait, du miel, de l'huile d'olive,
du sang et du vin.
Sept éléments-là, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on les considère que c'est des mashkins chashuvim, c'est des boissons importantes.
Donc, le sang.
Oui. Les boissons importantes, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. C'est un liquide qui a une valeur.
C'est étonnant, ça. Hein.
Ouais. C'est un liquide qui a une valeur.
S'il n'y a pas de valeur, le liquide, c'est quand même un liquide.
Quoi ?
Aujourd'hui, on sait quelle
c'est comme ça. Les Chachamim, si tu veux savoir pourquoi il faut un liquide important, tu vas voir dans le traité Marcherine. Pose-moi une question plus simple. Dis-moi, la Torah a parlé que d'eau, d'où tu m'as sorti tout le reste ?
Non, c'est pas...
D'accord ? Ben, ça, c'est le traité Marcherine. Le traité Marcherine, je crois qu'il est traduit en français, d'ailleurs.
Donc, tu sais bien que... Le côté...
Le principe, c'est qu'il faut que ce soit de l'eau ou à quelque chose d'important. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est considéré quelque chose d'important ? L'eau et les six éléments que je vous ai cités. Très bien. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut savoir. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que il faut que la personne, le propriétaire, soit intéressé. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Une fois que ça a été rincé avec de l'eau, c'est là que ça prend l'impureté. Imaginez-vous. C'est là que ça peut prendre l'impureté. Donc, imaginez-vous que j'ai devant moi une pomme. Tant qu'elle n'a pas été rincée, même s'il y a un mort qui la touche, elle reste pure. Dès qu'elle a été rincée par de l'eau ou par de la rosée ou par tout ce qu'on a dit, ça, dès qu'elle a été rincée donc ou mouillée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Même si après cette eau-là a été enlevée, même si maintenant la pomme est sèche, c'est fini, elle est devenue apte à recevoir l'impureté. C'est le verset qu'on vient de dire. Mais comme je viens de vous dire, il faut savoir, c'est que ce principe-là s'applique que si le propriétaire du fruit, propriétaire de la pomme par exemple, est content du fait que ça a été mouillé. S'il n'est pas content du fait que c'était mouillé, ça compte pour rien. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est impur, imaginez-vous, je suis impur, je passe au marché, et il y a un vendeur qui dit, voilà, je vends des fruits jamais touchés par l'eau, pâte, allez-y, ne peut pas prendre l'impureté, fruits jamais touchés par l'eau. Et il y a quelqu'un qui veut m'embêter, moi je vais embêter cette personne-là, je viens de toucher un mort, je prends un gros seau d'eau, je le balance dans ce truc, et après je le touche tout. Ah, voilà, impur. Là, dans ce cas-là, puisque le propriétaire n'est pas intéressé, il ne voulait pas qu'on lui mouille ses fruits. Il n'est pas intéressé, il ne voulait rien demander. Donc dans ce cas-là, on dit que même si les fruits ont été mouillés, puisqu'il n'était pas intéressé,
ça prend pas
l'impureté.
Ah,
c'est
quand même bizarre.
Il y a une histoire, exactement. Vous allez voir, on va analyser ça tout de suite. Ah oui, c'est ça ce qui est intéressant. Vous allez voir, la Gemara va tourner autour de ça.
En quoi il pourrait être intéressé par le fait que tu rentres ses fruits impurs?
Pardon?
En quoi il pourrait être intéressé?
Non, intéressé que ses fruits étaient mouillés.
Lavé.
Ah. D'accord. Ils sont propres.
Ah oui, ils sont propres. Regardez mes patates. Pas un gramme de sable.
Tachma.
C'est bizarre.
Donc viens, écoute.
C'est bizarre, ça.
Pourquoi les lois de pureté et d'impureté, c'est pas bizarre?
Si, si.
Ah oui.
C'est que du...
Non, mais là, c'est encore plus bizarre.
Ah oui, là, c'est encore plus bizarre.
Ouais.
D'accord. Faut laver. Qu'est-ce qui se passe quand tu laves avec
non,
de l'eau?
Non, c'est la Kavana, que ça se intéresse ou pas. C'est ça qui est...
En tout cas, l'eau est le vecteur, et au jour d'aujourd'hui, l'eau est toujours le vecteur aussi des maladies, je vous rappelle. Hein. Je vous
oui, bien sûr.
C'est le vecteur de toutes les...
Mais n'importe quel liquide, c'est fait avec de l'eau.
Tachma, bien écoute.
Je comprends pas pourquoi il parle des liquides importants. Parce que tous les liquides sont à base d'eau.
Non, c'est pour ça, par un jus de fruit par exemple,
oui.
Un jus de fruit, ça rend pas impur.
Mais c'est de l'eau.
Non, parce que ça tu verras dans le traité Marcherine, on te dit, la Torah a parlé que d'eau. La Torah a parlé de rien d'autre. D'accord. Les Chachamim, avec une étude spéciale, ont compris qu'il fallait rajouter ces six boissons particulières. C'est tout.
Liquide,
parce que bon, le sang, c'est une boisson.
Si tu prends du jus de poulet, par exemple, tu le jettes sur les pommes.
Oui.
Il y a du maturation, c'est pas
de l'eau. Non, c'est pas de l'eau.
Incroyable.
C'est pas eu. Donc, Tachma vient, écoute.
Odenu
Atal Vesama Chalem. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une braïta qui dit comme ça. Si maintenant, quelqu'un, il avait des fruits chez lui à la maison, et vous savez que les vers de terre, en général, se baladent plus souvent en bas qu'en haut, dans une maison. Alors lui, donc il a un peu des vers de terre, des trucs comme ça qui se baladent sur la maison.
De terre,
d'accord. Et il a envie, il a peur que ses fruits vont pourrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va monter ses fruits au toit. Parce que dans le toit là-bas, c'est plus sec, d'accord? Et donc il sait que là-bas c'est moins visité. Donc, je fais monter mes fruits au toit. Qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est selon les circonstances. Il fait monter parce qu'il sait que le toit c'est plus protégé et que ses fruits vont bien être gardés là-bas. Ses fruits n'ont jamais été touchés par l'eau encore. Vous suivez? Ils n'ont jamais encore été touchés par l'eau.
Comment c'est possible une chose pareille?
Ils n'ont jamais été touchés par l'eau.
Ils accueillent
dans un champ, il pleut.
Mais non, on a dit que tant que c'est attaché à l'eau, tant que c'est attaché au sol, ça prend pas l'impureté.
Incroyable ça aussi.
D'accord? Donc lui maintenant, il les a déjà accueillis, ils sont secs, c'est l'été, il les monte chez lui à la maison. Ils n'ont jamais touché l'eau encore.
C'est bon.
Très bien.
Il les engrange.
Qu'est-ce qui se passe? Donc il les monte, il les engrange exactement, bien. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la rosée qui tombe sur les fruits. Je sais pas, le toit n'était pas bien protégé. La rosée, elle tombe. D'accord? Et du coup, les fruits sont mouillés.
Ils peuvent prendre un peu.
On a dit que la rosée, rappelez-vous, c'était
ça
une... La rosée, c'est de l'eau. Donc... Non, c'est pas, la rosée, c'est pas de l'eau, on considère pas de l'eau. On dit que la rosée, les chamim ont rajouté. On a rajouté ce liquide-là.
C'est pas de l'eau, d'accord.
Veyarad aleem atal. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a de la rosée qui est tombée. Alors, écoutez bien ce qu'a dit la Mishnah. Odehuatal aleem vesamar. Si la rosée était encore, là c'est encore plus compliqué. Si la rosée était encore sur les fruits, vesamar, et il est content. Pourquoi il est content?
Parce
qu'il nettoie. Non, pas parce que ça nettoie. La Mishnah explique là-bas. Ça nettoie pas la rosée. Exactement. Ça rafraîchit. Les fruits, de temps en temps, tu as besoin de les rafraîchir. C'est juste, c'est quoi la rosée? Tu les humidifies. Mmh. Ça permet qu'ils restent plus longtemps frais. Donc on dit comme ça. Écoutez bien. Si la rosée est encore sur les fruits, Vesamar, et lui, il monte au grenier, juste pour visiter ses fruits, pour rendre visite à ses fruits, et il voit qu'il y a de la rosée. Ah, Vesamar! Il est content. C'est bien, Baruch HaShem, Dieu m'a envoyé la rosée, mes fruits sont frais. Mais là, à ce moment-là, tout de suite, il réalise, ah, mais...
Il
est mouillé. Mais ils sont mouillés tes fruits maintenant, c'est fini, ils prennent de l'impureté. Ils ont perdu de la valeur, au marché tu les vendras plus, même prix. D'accord?
Mais maintenant, et s'ils sont ressecs, pas de problème?
Non.
Ah
non, c'est fini.
C'est
fini. Une fois que c'est...
Non, ils sont pas impurs.
Oui, ils peuvent prendre l'impureté.
Quelque chose d'impur les touche, ils rattrapent l'impureté.
C'est sûr.
Bon, alors, si moi je suis pur et je les sèche maintenant, tous.
Oui, d'accord.
Ça change rien. Une fois qu'ils ont été touchés par l'eau, même si vous les avez séchés, maintenant, ils sont aptes à prendre la pureté, qu'ils soient secs ou humides, c'est fini.
Ah bon?
Ah bien sûr.
Je crois que c'était le pellicule d'eau par-dessus.
Pas du tout.
C'est sûr de ce que tu dis?
100%, bien sûr.
Ça, je ne
comprends rien.
D'accord? On dit comme ça. Ça rend apte, c'est pour ça que j'ai dit le mot à chaque fois, rendre apte. Ça rend apte à recevoir l'impureté. Tant que ça n'a pas reçu de l'eau, ça n'est pas apte à recevoir l'impureté.
C'est honnête, le vendeur.
Ah oui, c'est comme ça. Donc, Odehuatal aleem vesamar, si la rosée est encore aleem sur vesamar, et il est content. Il est joyeux, ça veut dire qu'il est content que ses fruits ont été humidifiés, mais après il se rend compte que du coup, maintenant ses fruits, ils sont aptes à recevoir l'impureté. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Elle a dit « Areze b'chiyutan ». Elle dit que là on considère que ça rentre dans la catégorie de chiyutan. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit le verset? Chiyutan maïm alzera. Le verset que je vous ai montré à droite là-bas. D'accord? Chiyutan, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quand on va mettre de l'eau alzera sur une semence. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a de l'eau qui a été mise. Même si moi je l'ai pas mise. Mais puisque je suis content qu'il y ait de l'eau qui a été mise, donc qu'est-ce qu'on considère? On considère que c'est comme si que moi j'ai mis l'eau. Donc là, on a vraiment une histoire de kavana.
Kavana, ouais.
D'accord? C'est même pas moi qui ai mis de l'eau. Et puisque je suis content, donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, arrêtez briutat. Nique vous, si maintenant les fruits sont déjà secs. D'accord? Si maintenant les fruits sont déjà secs, et qu'est-ce qui se passe? Moi, maintenant, après, par un facteur, par la suite, j'apprends que les fruits ont été touchés, que les fruits ont reçu de la rosée. D'accord? Bon, j'apprends que les fruits ont reçu de la rosée, mais la rosée n'est déjà plus là. La rosée n'est plus là. Vous me suivez? Vous me suivez ou pas? La rosée n'est plus là. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire, j'apprends que la rosée a été sur mes fruits.
Vous êtes content?
D'accord? Mais... Je l'ai appris,
mais
je l'ai appris seulement une fois que la rosée s'est déjà séchée. Mais je suis content.
Comment ça, tu es content?
Ben oui. Comme ça. Je monte dans le grenier. Je monte dans le grenier. Ah oui, bien sûr, je prends
Très beau. Ils sont beaux, mes fruits.
Monte dans le grenier, je vois que mes fruits sont beaux, donc je comprends qu'il y a un problème. Et là, je comprends qu'ils ont été, en vérité, ça fait déjà 4-5 jours que tous les matins, ils sont arrosés par la rosée. Mais moi, quand je les prends, maintenant, ils sont secs. Et quand je vais, je dis, ah, je suis content, c'est bien, mes fruits sont restés
frais. Si t'es content.
D'accord.
Si quelqu'un les a touchés.
Je suis content. Non, personne les a touchés. On veut savoir, est-ce qu'ils sont devenus aptes à recevoir l'impureté ou pas.
Oui.
D'accord. Ah non, écoutez bien. Alors, ça, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que puisque maintenant les fruits sont secs, donc nique-vous si les fruits sont secs, falpiché samar, bien qu'il est joyeux, il est content, il prend conscience que si ses fruits sont dans cet état, c'est obligé que tous les matins, il y a la rosée qui est
tombée. Oui, mais il y a un handicap.
D'accord.
Ça dépend ce que tu fais.
Falpiché samar, bien qu'il a été réjoui, bien qu'il est content de ça. Einob Chiyutan. Il n'est pas dans Chiyutan. Ça veut dire quoi? Attendez. Ça veut dire quoi, Einob Chiyutan? Pardon ? Avec plaisir, oui, c'est beau. Qu'est-ce qu'on te dit ? Einobechiyutan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le principe de Kiyutan ne s'est pas appliqué. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que les fruits ne peuvent plus recevoir l'impureté. Alors maintenant, écoutez bien comment la Gemara va utiliser ce cas qu'on vient de dire ici pour amener une preuve pour un baillet. Dit comme ça. Ta mama, tu suis... Alors là, on a tourné la page. On vient de tourner la page.
Non, sur la page, quelle page ?
Maintenant, on est 22B1. Voilà. Et nos briutal.
Ah oui, d'accord.
Okay. Alors, la Gemara dit comme ça. Regardez comment la Gemara va amener une preuve. Ça va être un peu fin. La Gemara va amener une preuve pour abayer.
Abayer,
dit comme ça. Ta mama, quelle est la raison pour laquelle tu m'as dit que les fruits... Que les fruits ne sont pas devenus aptes à devenir impurs, alors que les propriétaires sont contents. Seulement, qu'est-ce que tu m'as dit? Comme les fruits sont déjà secs, donc ça s'est déjà passé rétroactivement, donc ça marche pas. Là, Mishum de Lohamrina, n'est-ce pas que c'est parce qu'on ne dit pas Kevan de Ilay Milta de Hashani Khale, mais Karanami Nichale? Là, ça va être une preuve pour Abaye. Pourquoi? Quelle était la marque entre Abaye et Rava? Rava tient du concept du rétroactif. Il te dit, puisqu'on sait que dans 10 jours, par exemple, tu vas abandonner ton objet, donc rétroactivement, on tient que depuis maintenant, tu peux le prendre. Abaye tient que le concept du rétroactif ne marche pas. A priori, de cette braille, ça ici, on a une preuve que le concept du rétroactif ne marche pas. Pourquoi ? Quand je viens 5 jours plus tard, et je prends conscience que mes fruits ont été mouillés pendant 5 jours, mais que maintenant, ils sont secs, pourquoi on ne dit pas la même chose ? Que puisque je suis content qu'ils ont été mouillés, donc même si maintenant, ils sont secs, mais rétroactivement, comme avant, j'étais content qu'ils étaient mouillés, donc rétroactivement, on n'a qu'à dire qu'ils prennent l'impureté. Pourquoi on n'applique pas le concept du rétroactif? Donc de là, a priori, la Gemara va amener une preuve ici pour Abaye, que Abaye a dit que le concept du rétroactif ne marche pas. On a une preuve claire ici. À moins qu'on va trouver une autre raison. C'est ce qu'elle va faire la Gemara. La Gemara va trouver une autre raison pour dire pourquoi ici le concept du rétroactif ne marche pas. Une raison spécifique à ce cas. Et si on ne trouve pas de raison spécifique à ce cas, a priori, la seule raison pour laquelle le concept du rétroactif ne marche pas, c'est parce que rétroactif, ça ne marche pas. Donc, pas comme Rava a dit. Rava a dit que le concept du rétroactif, ça marche. Yé ou je crois que ça marche. Ici, j'ai une preuve claire du contraire. Comme vous verrez dans la Khazara. J'ai une preuve claire du contraire. Le rétroactif ne marche pas. La preuve, moi je viens après coup. On ne dit pas que puisque tu es content de ce qui s'est passé avant, donc rétroactivement, c'est comme si ça se passe maintenant. Non, il n'y a pas. Ça s'est passé, c'est fini. Trop tard. Donc, le concept du rétroactif ne marche pas. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? La Gemara, elle dit non. La Gemara, elle dit la réponse que je vous ai dit, elle dit, on peut pas dire ça. Pourquoi on peut pas dire ça? Parce que là-bas, pourquoi le rétroactif ne marche pas? C'est pas parce que le rétroactif ne marche pas en général. En général, le rétroactif, ça marche. Pourquoi ça marche pas ici? Parce qu'il y a une raison spécifique. Shan yatam, c'est différent là-bas, dire-t-il qui yiten. Le verset, il dit comme ça. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, vous avez remarqué le verset, on va retourner la page. Vous avez remarqué, c'est écrit Vechi Yutan Maïm Alzera.
Oui.
D'accord ? C'est écrit Vechi Yutan Maïm Alzera, lorsqu'on mettra de l'eau. Yutan, en hébreu, ça veut dire lorsque de l'eau sera mise. C'est un passif. Vous suivez ? D'accord ? C'est pas un actif, c'est un passif. C'est-à-dire que lorsque ça sera mis, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être Dieu, ça peut être n'importe qui.
Ça peut être la rosée.
D'accord ? Ça peut être la rosée. Là, c'est Vechi Yutan. Le problème, c'est que normalement, Vechi Yutan en hébreu, on aurait dû rajouter un vav. Après le yud. Yutan. Yud, vav, tav, nun. Là, la manière comment c'est écrit dans le Sefer Torah sans Nekudot, normalement on aurait dû dire iten. Iten, c'est plus un passif, c'est un actif. Lorsqu'il va mettre. Là, c'est-à-dire je dois mettre, je dois être consentant, c'est moi qui ai mis de l'eau. Alors, dit la Gemara dit comme ça. La Gemara dit là-bas c'est différent, hein, pourquoi hein, dire tif qui iten. Parce que c'est écrit qui iten, que même si on le lit qui yutan, même si la manière comment on le lit, on sait, d'accord, on sait qu'on le lit qui yutan, c'est un passif, quand l'eau sera mise, c'est un passif. Mais la manière comment c'est écrit dans le Sefer Torah, hein, c'est écrit de manière, a priori, que c'est un actif, lorsque il mettra. Et il faut tenir compte de la manière comment c'est écrit dans le Sefer Torah. Même si on ne le lit pas comme ça, mais il faut tenir compte comment c'est écrit. Et là, on apprend quoi que qui iten, ad sheiten. Il faut que, ad sheiten, ça veut dire quoi? Il faut que le propriétaire mette soi-même des fruits. Mettre soi-même, pardon, de l'eau sur les fruits. Donc, je vais répondre à Gemara avec ça. Toi, tu as voulu me dire que pourquoi le concept du rétroactif ne marche pas. J'attends votre question, là. Il y a une question dans ce que je viens de dire. Hein. Trouvez la faille. C'est compliqué? Hein? Qu'est-ce qu'on a expliqué ici? Qu'est-ce qu'on a expliqué ici? On a expliqué que nous, on a voulu amener une preuve du cas ici. On a voulu amener une preuve que le concept du rétroactif ne marche pas.
Oui.
La preuve, c'est que quand je viens après coup, Les fruits ont été mouillés, mais ils sont déjà secs. Rétroactif ne marche pas. Je te dis non. Là-bas, pourquoi ça ne marche pas rétroactif? Parce que c'est écrit qui iten. Qui iten, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que ce soit un passif. Il faut que c'est toi qui mette de l'eau. Or, là, puisque c'est pas toi qui as mis de l'eau, donc ça peut pas marcher.
Mais quel rapport?
Qui iten, ça doit être un passif. Ça veut dire que ça doit être un actif. C'est-à-dire que c'est quand tu mets de l'eau.
Ça fait partie? C'est un cas parmi les autres?
Non.
L'actif, il fait partie des cas du passif. Lorsqu'il sera mis de l'eau,
non.
Il faut considérer que c'est toi que tu as mis.
Justement, ça c'est ce que tu dis. Tu dis qu'il faut tenir compte de la manière comment c'est écrit dans la Torah.
Ah oui, d'accord.
Donc, puisqu'il faut tenir compte de la manière comment c'est écrit dans la Torah, la manière comment c'est écrit, c'est un actif, c'est pas un passif. Donc il faut que ce soit un actif. Or, ici, c'est pas un actif. D'accord?
Alors, non, c'est pas
l'arroser, c'est pas un actif, c'est un passif.
Oui.
Vous me suivez? Monsieur Bissou, vous êtes d'accord?
Oui.
Je donne la bonne définition.
Comme
ça, on dit actif et passif
oui,
en français, oui.
Mais quel rapport avec le fait que tu sois content ou pas, là, alors?
Ah, justement, ah, bien, bonne question. C'est ça la question. C'est une bonne question. Dans ce cas-là, il faut une bonne question. Il dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change si je suis content ou pas? Si tu me dis que ça doit être un actif, alors c'est-à-dire qu'il faut que c'est moi qui mette de l'eau. Donc dans l'arrosé, ça devrait jamais marcher.
Voilà.
Puisque l'arrosé, c'est jamais un actif, c'est toujours un passif. Jamais moi j'ai mis de l'arrosé. Ça, c'est la question de la Gemara. D'accord. Yach, si c'est comme ça, Reishanami, le début aussi. Quand on dit le début aussi, alors le début aussi, quand tu m'as fait cette différence-là, qui l'a intéressé, ça change rien. Qu'est-ce que je suis intéressé? Ça reste toujours un passif. C'est toujours pas un actif. Alors, je vais un peu vite. Hein,
passif, vous aurez... actif, je dirais plutôt moi involontaire et volontaire parce que...
Ah non, pas du tout. Pas involontaire et volontaire. En hébreu, il iten, yutan.
Oui.
Iten, ça veut dire il va mettre. Je donne un exemple, d'accord? Iten, ça veut dire, si je donne un exemple, voilà, je renverse le café. D'accord?
Bien.
Quand tu dis un actif, ça veut dire je renverse le café. C'est un actif. Oui. Un passif, ça veut dire le café s'est renversé. Ça peut être moi qui l'a renversé, ça peut être toi, ça peut être la table qui a bougé, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être ce que tu veux.
D'accord.
Non, je l'explique la différence entre actif et passif.
Moi, je passe à un volontaire.
D'accord.
Passif, c'est quand ça a été fait, puis on...
La différence entre un actif et un passif, c'est ça. C'est que actif, c'est quand il y a une personne qui a fait la chose activement.
Ah, d'accord.
Et passif,
sûr qu'il est content, qu'il est au courant.
Et quand c'est passif, ça veut dire que ça s'est passé à ton insu.
D'accord.
Maintenant, peut-être que toi t'es content, peut-être que toi t'es pas content, mais ça s'est passé à ton insu.
D'accord.
Le verset, c'est écrit qui y tienne. Qui iten, ça veut dire c'est un actif, c'est-à-dire quand il mettra, quand il versera le café, mais on le lit yutan. Yutan, ça veut dire quand du café sera versé.
Sans préciser.
D'accord. Donc reprenons notre histoire de rosé. A priori, la rosée, c'est un actif ou un passif, monsieur Daniel? C'est toujours un passif, ça peut jamais être
oui,
un actif. Personne va prendre de la rosée et la poser sur les fruits. D'accord. Tu peux pas prendre de la rosée.
Mais il y a un vice ici aussi.
C'est quoi?
C'est que peut-être que je sais que mon toit est justement percé et que tous les jours il y a une rosée.
Ça change pas.
Je l'ai mis là-bas exprès pour que la rosée.
Ah, ça peut pas être un actif. Ça peut jamais être un actif. C'est toujours un passif. Ça peut jamais être un actif. Un actif, c'est quand tu verses le café. C'est comme moi, je peux poser mon café sur une machine à laver et je sais qu'elle va tourner à 1400 tours. Je sais que c'est sûr que le café il va tomber.
Ouais.
D'accord. Bon, s'il est rempli, hein. Il est rempli, je sais qu'il va tomber. D'accord. Ça s'appelle toujours un passif. C'est plus un actif.
Oui, c'est pas fait par toi.
C'est pas fait par moi.
Mais
t'as mis la main, ta main, on est pas d'accord.
Bon, non,
d'accord, mais c'est pas,
là, vous parlez déjà du concept de Nézek. D'accord, des dommages. Là, bien sûr que dans le dommage, actif ou passif, tu payes. Parce qu'il fallait pas mettre un truc sur la machine à laver. D'accord, je parle pas de ça. Là, je parle du concept de actif et passif. C'est pas la même chose.
Donc, faut se... Actif, non. Alors.
Alors,
donc, imaginons, moi, je suis propriétaire. J'ai mis là-haut. Si je vois qu'ils se sont bien conservés avec l'eau, d'accord,
l'arrosé.
Je vais être content. Si je vois qu'ils se sont mal conservés avec l'eau, ah non, je suis pas content. Mais mes fruits sont purs. Puisque je suis pas content.
Ça change rien, monsieur Bismuth.
Ça
change pas. Ça change pas que ça reste un passif.
Après coup.
Ça change pas que ça reste un passif. C'est pas un actif.
Bien que je l'ai mis exprès.
Oui. Donc c'est pour ça que la Gemara pose la question de Yaakov. La Gemara dit mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change si la personne est contente ou elle n'est pas contente? Quoi qu'il en soit, ça reste un passif. La rosée, ça reste toujours un passif. Réponse de la Gemara. D'accord. Elle dit ah t'as là-bas qui dérape papa. Là-bas, il faut expliquer comme Rav Papa. C'est-à-dire quoi là-bas? C'est-à-dire en vérité, cette Mishnah, il faut l'expliquer comme Rav Papa. Écoutez bien comment il fait Rav Papa. Rav Papa a rami. Rav Papa a posé une question. Kitiv, c'est écrit Kiyiten. Il dit dans la Torah, dans le Sefer Torah, comment c'est écrit Kiyiten? Kiyiten, c'est un passif ou un actif?
Un actif.
Yiten. Il va donner, il va mettre. Donc c'est un actif. D'accord? Et d'un autre côté, et Karinan Kiyutan. D'un autre côté, on sait que comment on lit au Sefer Torah, on lit Kiyutan. Kiyutan, ça veut dire c'est un passif. Aketzad, alors comment on fait? C'est un passif ou un actif? Encore une fois, je vous ai dit qu'il faut faire attention parce que dans le Sefer Torah, on accorde de l'importance à la manière comment c'est écrit, même si on ne le lit pas comme ça. Il y a des tas de halakhot qui sont appris de la manière comment une chose est écrite. Un point très important à comprendre.
Pourquoi la Mishnah, pourquoi elle n'a pas repris la même formulation que la Torah?
Au fait, on lit quoi nous quand on va
dans le Sefer Torah? Non, justement, on lit le cri. Il y a le cri et l'octive. L'octive, c'est comment c'est écrit. Et le cri, c'est comment on doit lire. Ça, c'est ce qu'on appelle la massorette. Massorette, c'est la tradition. Ça veut dire que le Chachamim, il savait que même si c'est écrit Kiziten, d'accord, a priori, c'est comme ça. C'est écrit, on prononce comme ça. Mais, puisque la Torah a formulé sa phrase d'une manière qu'on peut comprendre actif ou passif, et qu'a priori, on devrait comprendre normalement actif, mais bon, tu m'as dit qu'on a appris par la tradition qu'il faut lire passif, ça veut dire qu'on accorde de l'importance aux deux. Donc Rafa pose une question très simple, il dit, je comprends pas. C'est écrit actif. On lit passif. Alors, actif ou passif? Il faut se décider. Des fois dans la Torah, le cri et l'octive, ça ne forme pas de différence. D'accord? C'est-à-dire, des fois dans la Torah, la manière comment on lit et la manière comment
c'est
écrit, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que la manière comment on lit et la manière comment c'est écrit, c'est pas la même prononciation, mais le sens est le même. Là, le problème, c'est que le sens change. Actif et passif, c'est pas la même chose. Donc Rav Papa pose une question, il dit comment on fait? Actif ou passif? Alors regardez bien ce qu'il répond Rav Papa. Il dit Aketzad, Ve'inan ki yutan dumia dechiyiten. Il dit comme ça, il dit qu'en vérité, si la Torah a utilisé un terme qui veut dire actif et passif, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut que ce soit passif. Mais il faut que le passif ressemble à l'actif. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Ma iten, de la même manière que le passif, que iten, c'est iten, on a dit, c'est l'actif ou le passif? L'actif. Les dates, de la même manière que l'actif, ça, c'est obligatoirement les dates, ça veut dire que le propriétaire est content de ce qui s'est passé. Et d'accord, bien entendu, si c'est actif, si je verse le café, c'est obligé que je suis conscient.
Bien sûr.
D'accord. Ah, puis Yutan a mis les dates, dira papa. Et là, on comprend. Qu'est-ce qu'il dira papa? Il dit de la même manière qu'il Yutan, de la même manière, le passif doit être aussi de manière que je suis content. Que je suis, comment vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, les dates, comment il traduit ici? Les dates.
Conscient.
D'accord. Pas conscient. Les dates, ça veut dire que je suis content, que je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà, la bonne traduction, c'est d'accord, que je suis d'accord. De la même manière que dans l'actif, je suis d'accord avec ce qui se passe, puisque c'est moi qui suis en train de verser le café, je suis d'accord avec ce qui se passe. De la même manière, puisque la Torah a employé un terme qui peut servir d'actif et de passif, ça veut dire que le passif doit être comme l'actif. De la même manière que l'actif, je dois être d'accord avec ce qui se passe, obligatoirement. De la même manière, le passif aussi, je dois être d'accord avec ce qui se passe. Donc, c'est de là qu'on apprend le concept de content et pas content. D'accord? De là qu'on apprend le concept de content et pas content. Donc, quoi qu'il en soit, on n'a toujours pas de preuve. On n'a toujours pas de preuve pour abayer. Pourquoi? Puisqu'on a... Gamzul et Tova. Pourquoi on n'a toujours pas de preuve pour abayer? Puisqu'on a réussi à démontrer que le cas de l'impureté, c'était un cas particulier. La raison pour laquelle ça ne marchait pas rétroactivement, c'est parce que quelque part, il faut qu'il y ait un certain consentement. Ce qu'on a montré, comment qui t'aime, qui utile, passif, actif, d'accord. Bon, donc on a montré qu'il y a une raison particulière pourquoi le rétroactif ne marche pas. Très bien. Donc on n'a toujours pas de preuve. Parce que pourquoi le rétroactif n'a pas marché dans le cas de l'impureté? Parce qu'il y avait un verset particulier. Mais dans le cas d'une trouvaille qui n'a pas de verset particulier, On ne sait pas. Toujours pas de preuve, ni pour Abaye, ni pour Rava. D'accord ? Et là, je finis. Enfin, là, on va voir la preuve finale pour Abaye. Là, la halakha sera comme Abaye. D'accord ?
Tu fais.
Tu dis. Tashma, viens, écoute. Dama Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a dit, Mishum Rabbi Ishmael ben Yotzadak, au nom de Rabbi Ishmael, fils de Yotzadak. Bon, alors, il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Ishmael, fils de Yotzadak, c'est Rabbi Shimon, fils de Yotzadak. Parce que dans la Gemara, on n'a jamais retrouvé Rabbi Ishmael, fils de Yotzadak. Par contre, on a trouvé souvent que Rabbi Yochanan répétait des enseignements au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. C'est pour ça que le Masoret Hashas, d'accord, Masoret Hashas, donc c'est ici, vous l'avez, si vous voulez voir, c'est dans la Gemara, dans le côté Gemara, c'est en haut de la page à gauche, d'accord. Il dit qu'il faut dire Rabbi Shimon. Bon, quoi qu'il en soit. Rabbi Shimon ben Yotzadak. Il dit comme ça. Il dit, Minayin, d'où on sait. Écoutez bien ce qu'on va dire ici. Et ça va être la preuve ultime pour Abaye. Preuve ultime pour Abaye. Il dit comme ça. Il dit, Minayin. Moi, je suis passé un peu vite dans le cas d'avant, hein, mais vous aurez la Chazara. Parce que bon, Bezrat Hashem, ça c'est assez clair dans le français. Minayin, il dit comme ça. D'où on sait. La Veda, Sheshtaf, Anar. Monsieur Daniel, on a déjà vu ce cas. D'où on sait que la Veda, s'il y a une perte, chez Shtafanar, que le fleuve l'a emporté. De quel cas on parle? On parle d'un cas que le fleuve l'a emporté, mais pas comme le cas de la semaine dernière. Que le fleuve a emporté une poutre, et que la poutre, ça peut se retrouver. Parce que la poutre, ça va flotter, et on va finir par la retrouver. On parle d'un cas que le fleuve a emporté quelque chose que c'est, normalement, on ne retrouve jamais. D'accord? Par exemple, d'accord, j'étais dans le fleuve, et le fleuve a emporté mon porte-monnaie. Personne compte retrouver son porte-monnaie. C'est pas seulement moi qui compte pas, c'est pas seulement le propriétaire qui compte pas retrouver son porte-monnaie. Personne dans le monde compte le retrouver, puisqu'il est au fond de la mer, il est au fond du fleuve. Très bien. Maintenant, avec un concours de circonstances, il s'est passé quelque chose, je sais pas moi, il y a un poisson qui l'a mangé, je sais pas ce qui s'est passé, le portefeuille a été retrouvé. Pas par son propriétaire. Moi, j'ai un propriétaire, je plongeais sous-marine, d'accord, dans un fleuve, hein, plongeais sous-marine dans un fleuve, et je trouve un portefeuille. Portefeuille bien garni. Donc, d'où on sait la Veda Sheshtafanar, il dit comme ça Rabbi Yochanan, d'où on sait que s'il y a une Aveda, une perte, que le fleuve l'a emporté. Mais attention, on parle d'une perte que personne ne compte retrouver, par exemple un portefeuille, pas une poutre. D'où on sait chez Imouteret, d'où on sait que le propriétaire peut la prendre tout de suite, enfin que pardon, pas le propriétaire, que celui qui la trouve peut la prendre tout de suite sans état d'âme, et que ça lui appartient tout de suite. Dirti, parce que c'est écrit, le verset quand il parle de trouvailles, il dit comme ça. Il dit Vechen Taase la Chamoro. Ainsi tu feras pour son âne. Vechen Taase les simulato. Ainsi tu feras pour son vêtement. Vechen Taase le Chol Avedat Achicha. Ainsi tu feras pour toute la perte de ton frère. Pour toutes les pertes de ton frère. Ça veut dire tout ce que ton frère a pu perdre. Ça peut être un âne, ça peut être un vêtement, ça peut être toute perte. Asher Tovad Mimenu. Qui va être perdu de lui. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Asher Tovad Mimenu. Qui sera perdu de lui. Ou Metsata et tu vas le trouver. Rabbi Yochanan apprend. Qu'est-ce qui veut dire le mimenu ici? Mishavuda rak emenu ou metsuya et elkol adam. Yatstazo, sheyavuda mimenu vegam ena metsuya et elkol adam. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset, il dit toute perte qui va être perdue de lui. On va reprendre un exemple, d'accord, monsieur Daniel?
Ouais.
Imaginez-vous que Dieu préserve, vous avez perdu un portefeuille. Oui? Vous avez perdu dans la rue. Bon. Vous l'avez perdu dans la rue, le portefeuille. Qui a perdu le portefeuille? C'est vous.
Ouais.
Est-ce que le portefeuille est perdu pour le monde entier aussi?
Non.
Parce que celui qui va marcher dans la rue pour l'enfer après vous, il va trouver le portefeuille.
Il n'est pas perdu pour tout le monde.
Donc il n'est pas perdu pour tout le monde. C'est une expression qui dit comme ça?
Il
n'est pas perdu. Il est perdu que pour vous.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit, regardez bien les mots du Passouk. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Asher Tovad, Mimenu. Tout objet qui sera perdu de lui. C'est-à-dire qu'il est perdu que pour vous. Mais il n'est pas perdu pour
donc,
tout le monde.
Donc celui qui
d'accord
se trouve à...
Donc là, dans ce cas-là, toutes les lois du Yehush s'appliquent. Il faut attendre que M. Daniel a abandonné, etc.
Oui.
Là, dans ce cas-là, le principe du Yehush s'applique. Mais, dans le cas... Exactement. Là, toutes les lois du Yehush s'appliquent. Pourquoi? Parce que...
Il dit Mimenu et pas Mimeno.
On va pas dire Mimeno. Ça ne veut rien dire Mimeno en hébreu. Enfin, que je sache, hein. Non, parce qu'en hébreu, ça veut rien dire Mimeno.
Mimenu,
ça veut rien dire. Mimenu.
C'est perdu pour le
il n'y a pas deux manières de dire ce texte. Donc là, dans ce cas-là, Asher Tovad Mimenu, il faut que l'objet soit perdu de lui, que lui a perdu l'objet.
Ça,
D'accord ?
C'est une indication.
Une indication. Donc ça veut dire, mais par contre, le portefeuille qui a été perdu dans le fleuve, est-ce qu'il était perdu que pour vous ? Non ! Il était perdu pour le monde entier. Parce que normalement, statistiquement, personne retrouve un portefeuille au fond d'un fleuve. Donc il est perdu de vous et du monde entier. Même si on peut avoir un cas extrême, on peut avoir un cas isolé dans lequel on a retrouvé, bon, peut-être. Mais statistiquement, on ne retrouve pas ce genre d'objet. Donc Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ? Rabbi Yochanan, il dit de là on apprend que Asher Tovad, mais nous, ça veut dire on apprend qu'il faut que l'objet soit perdu de lui, mais qu'il soit pas perdu du monde entier. Donc de là on apprend que ce qui a été perdu dans le fleuve, puisque c'est perdu du propriétaire et du monde entier, si par concours de circonstances une personne le retrouve, il peut le prendre de suite, même s'il y a un siman. Même s'il y a un siman.
Pourquoi?
Parce que ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan te dit, toutes les lois de siman, yehush, etc. s'appliquent que quand l'objet a été perdu que du propriétaire. Mais qu'il n'est pas perdu pour tout le monde. Or, là, quand il est dans le fleuve, puisqu'il est perdu du monde entier, et que statistiquement, on ne le retrouve pas, alors, je vais le prendre tout de suite. Alors, maintenant, écoutez bien comment la Gemara va prendre cette phrase qu'on vient d'apprendre ici pour amener la preuve ultime pour Abaye, que le rétroactif ne marche pas. Vous me suivez ?
Mm-hmm.
Dit comme ça.
Ouais, il va gagner Abaye, en fait.
Ah, il va gagner. Big time. Il va gagner, là, ça va être un knockout.
Tout à l'heure, pour venir révolutionnaire, le rétroactif.
Eh ben non, ça marche pas.
Rabat, il ne pas bien.
Non, on ne sait pas ce qu'il voulait dire. On ne sait pas ce qu'il voulait dire. Parce qu'a priori, la Rava, on a une question costaud. Regardez la question de l'Agmar. L'Agmar a dit, Veissoura, Dumia, Zetera. Il te dit comme ça. Et tu regardes bien, analysons bien ce verset. C'est ça ce que vous avez vu, M. Bisput ? Hein ?
Non.
Elle dit, regarde, analysons bien ce verset. Le même mot mimenu, d'accord ? Goûtez bien ce que je veux dire, là c'est un peu fin. Vous me suivez ? Le même mot mimenu qu'on a dit, a servi pour permettre et pour interdire. Pourquoi ? Imaginez-vous que, voilà, je suis la Torah, je suis en train de parler. Je dis, ainsi que toute perte qui sera perdue de lui. Ce mot de lui a permis et a interdit. Pourquoi ? D'un côté, il a permis, quand c'est une trouvaille de quelque chose qui est perdu du monde entier, comme ce que je viens d'expliquer, quand c'est perdu dans le fleuve, que là c'est perdu du propriétaire et du monde entier, donc il a permis. Mais d'un autre côté, ce mimène où il a aussi interdit. Quel cas il a interdit ? Il a interdit le cas où je retrouve une trouvaille dans la rue Paul à Enfer, que là, dans ce cas-là, ça a été perdu que du propriétaire initial. Mais ça n'a pas été perdu du monde entier.
Tout le monde a accès.
Tout le monde y a accès. Donc le même mot mimène où a servi à interdire et à permettre. Vous me suivez ? Ça a été un terme restrictif. Donc, il a servi à interdire, dans un cas dans lequel c'est perdu que pour le propriétaire initial, pas pour le monde entier. Et il a servi aussi à permettre dans le cas où c'est perdu pour le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ? Rabbi Yochanan, il y a une logique très simple. Il dit « Veissoura Dumia Zetera ». Puisque du même pasouk, du même mot, on apprend la permission et l'interdiction, et on apprend le cas permis et le cas interdit. Le cas permis, c'est le cas où c'est dans le fleuve. Le cas interdit, c'est le cas où c'est dans la rue Paul Enfer, que là, toutes les lois du Yéhouch s'appliquent. Il faut Yéhouch, Siman, etc. Donc il dit, ça veut dire que il faut que l'interdiction et la permission doivent être comparées. Les mêmes règles doivent s'appliquer. Ça veut dire quoi ? Il dit comme ça. Ma etera bendeit besiman, bendelet besiman shara. De la même manière que quand tu m'as permis dans le fleuve, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Même s'il y a un siman, si je trouve un portefeuille au fond du fleuve, même s'il y a un siman, je peux le prendre ou pas ?
On peut le prendre.
Ça veut dire quoi ? Il te dit comme ça. Il faut comparer l'interdiction et la permission, puisque les deux, on les a pris du mot mimenu. Donc, de la même manière que dans la permission, que ce soit qu'il y avait un siman, ou que ce soit qu'il n'y a pas de siman, c'est permis. C'est permis. Pourquoi c'est permis ? Parce que c'est permis, c'est tout. De la même manière, de l'autre côté, quand tu me dis que c'est interdit, alors, pareil, Afissoura, pareil, de l'autre côté, dans le histoire, ça veut dire quand c'est une perte rupole en fer que, et il y a un a priori, attention, il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire ici ? Ben deit basiman, ben delet basiman, Asura. Que ce soit qu'elle a un siman, ou que ce soit qu'elle n'a pas de siman, elle est interdite. Il a une logique très très simple, Rabbi Yochanan.
Comment ça, elle est interdite ?
Regardez bien. Ah, ben voilà. Ça va être une preuve pour Abaye. Je l'explique tout de suite. Là, c'est fin, mais la preuve est très très forte. Et la Gemara n'a rien à redire dessus.
C'est un cas où quelqu'un il a
perdu un objet. Lui,
il fait une démonstration.
Alors, regardez bien, je finis la démonstration. Très simple. Est-ce que vous avez compris le fait qu'on doit comparer la permission et l'interdiction? Vous avez compris ce concept-là? Les deux, on les a pris du mot mimenu. Le verset a dit un terme restrictif. Il a dit tout ce qui va être perdu de lui. Donc de là, on apprend deux choses. On apprend le cas dans lequel c'est perdu que Rupol en fer, donc que de lui. Et on apprend aussi de l'autre côté le cas où c'est perdu du monde entier. Donc on a appris un cas où c'est permis, un cas où c'est interdit. On a un principe, c'est Rachid qui explique comme ça. On a un principe que si on apprend deux halakhot du même mot, ce qui est le cas ici, vous me suivez, il faut juxtaposer les deux halakhot. Il faut que les deux halakhot soient dans les mêmes circonstances. Donc je te dis comme ça. La même manière que dans le cas, tu m'as dit que c'est permis, le cas où on a trouvé au fond du fleuve, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que ce soit qu'il y a un siman ou que ce soit qu'il n'y a pas de siman, c'est permis. Alors, de la même manière, de l'autre côté, dans le cas où c'est interdit, rue Paul Enfer, que ça soit, c'est le contraire. La même chose, mais le contraire. Que ce soit qu'il y a un siman ou que ce soit qu'il n'y a pas de siman, c'est interdit. Moi, je vous pose une question. S'il y a un siman, c'est interdit. S'il y a un siman, rue Paul Enfer, c'est interdit.
C'est l'inverse.
Alors là, je vous pose une question. S'il y a un siman, je comprends pourquoi c'est interdit. D'accord? Parce que là, il y a un siman. Mais s'il n'y a pas de siman, pourquoi ça serait interdit? Et là, Abaye dit, moi je vais vous expliquer pourquoi c'est interdit.
Dans le cas de la rue
Paul Enfer.
Ouais.
Je vais vous expliquer, Ravadi. Là, Abaye dit, moi je vais vous expliquer pourquoi c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'on n'est pas sûr que le propriétaire a déjà abandonné. Même s'il n'y a pas de siman. S'il y a un siman, c'est sûr que c'est assourd. Même s'il n'y a pas de siman, on n'est pas sûr que le propriétaire a déjà abandonné. Donc puisqu'on n'est pas sûr que le propriétaire a déjà abandonné, donc quand il n'y a pas de siman, c'est aussi assourd. Donc là, on a juxtaposé le cas de la permission et le cas d'interdiction. Dans le cas du fleuve, c'est interdit. Dans le cas du fleuve, c'est interdit qu'il y ait un siman ou qu'il n'y a pas de siman. Pardon. Dans le cas du fleuve, c'est permis qu'il y ait un siman ou qu'il n'y a pas de siman. Dans les deux cas, c'est permis.
Oui, parce qu'on considère.
Dans le cas, parce qu'on considère que c'est perdu, ben la même chose, on va juxtaposer de l'autre côté. Dans le cas de la rue, ça va être interdit qu'il y ait un siman ou qu'il n'y a pas de siman. Alors quand il y a un siman, je comprends que c'est interdit, mais quand il n'y a pas de siman, selon Rava, ça devrait être permis, parce que rétroactivement, ça devrait être permis. Donc Abaye dit, de là, j'ai une preuve que rétroactivement, ça marche pas, parce que sinon, pourquoi, quand il n'y a pas de siman, ça devrait être interdit? On a dit que c'est une équation, on est bien d'accord, c'est de l'autre côté. Pourquoi ça devrait être interdit? Donc là, de là, on a une preuve pour Abaye. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, je finis avec ça, sur la Chazara, elle dit, tchufta de Rava, tchufta. La Gemara, elle dit, effectivement, tchufta de Rava, question sur Rava, question. Notre terme, point à la ligne. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que Rava voulait dire. N'oubliez pas, Rava n'est pas là. D'accord? Ça, c'est la Gemara qui analyse ce que Rava voulait dire. Là, a priori, on ne comprend pas ce que Rava voulait dire. A priori,
et
Rava est bloqué.
Juste à poser l'eau et l'air.
Le quoi?
De dire de la même manière que dans l'eau.
Parce que le même terme, mimenu, le terme restrictif,
oui.
D'accord? C'est lui qui nous a pris pour l'eau et c'est lui qui nous a pris pour Rupol Enfer.
D'accord?
D'accord? Parce que c'est lui, quand en disant mimenu, perdu de lui, donc. Quand c'est rue Paul Enfer, c'est perdu que de lui, mais ce même terme, il s'est appris que quand c'est pas perdu que de lui, mais c'est perdu du monde entier, donc dans ce cas-là, c'est permis. Donc le même terme, imenu, a servi à apprendre la permission et l'interdiction. De là, Rachid explique, on a un principe, moi je vous explique comme Rachid, hein, parce qu'il y a d'autres richelines qui apprennent autrement. Je pense qu'ici, il vous amènera d'autres explications aussi. Là, je vais vous expliquer comme Rachid. Rachid explique comme ça, que puisqu'on a appris du même terme, donc on doit juxtaposer les cas de la permission et l'interdiction. De la même manière que dans la permission c'était permis qu'il y ait un siman ou qu'il n'y a pas de siman, de la même manière dans l'interdiction, on rue Paul Enfer, c'est interdit qu'il y ait un siman ou qu'il n'y a pas de siman. Alors qu'il y a un siman, je comprends que c'est interdit. Quand il n'y a pas de siman, pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? La seule raison qu'il peut avoir, c'est parce que Yehoud rétroactif ne marche pas. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Tchufta de Rava, tchufta.
Mais s'il n'y a pas de siman.
Question. Voilà, s'il n'y a pas de siman, c'est aussi interdit.
Qu'est-ce qu'on fait avec l'objet?
Ah.
Ben on le garde.
On devra attendre. Tu devras attendre.
D'accord, mais comme il n'y a pas de siman, la personne qui va venir mettons un an après,
oui.
Il a aucune preuve que c'est elle.
Très bien, alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question, Yacob. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va attendre un laps de temps qui va être défini par la suite, par la Gemara, par exemple. On va attendre 6 mois, 1 an. Non, on divise pas par 2.
Je vais attendre que tu
là, fasses je vais pas
une croix,
là.
Une
je trouve, imagine-toi, je trouve un portefeuille dans la rue. Il n'y a pas de siman. D'accord, il n'y a rien, il n'y a aucun signe distinctif. Je suis pas sûr que le propriétaire a déjà abandonné. Dans ce cas-là, qu'il y ait un siman ou qu'il n'y ait pas de siman, c'est assourd. Alors qu'est-ce que je fais avec le portefeuille? Je le garde. Il y a un laps de temps qu'on va définir.
Il y a un siman et que tu sais où il est, tu le ramènes
bien
quand même.
Bien sûr. Alors attends, qu'est-ce que je fais? J'attends un laps de temps. J'attends un laps de temps, de par exemple, on va définir après, pour certaines choses, ça sera un mois, six mois, un an, on va définir ce laps de temps. Une fois que ce laps de temps est passé, on considère que cet objet-là n'est plus une perte. C'est fini.
On considère que tu l'as déclaré.
Non, on considère que pour le propriétaire, il s'est déjà enlevé de sa tête. Donc c'est plus Asher Tovah Mimenu, c'est même plus une perte, il a enlevé ça de sa tête. Là tu pourras le prendre.
Il est annulé.
Mais tant que la personne a ça dans sa tête et que c'est possible qu'il ne l'a pas encore abandonné, puisque selon la Torah, le Yehush est impératif, puisque je ne suis pas sûr que le propriétaire l'a déjà abandonné, donc qu'est-ce qu'on te dit, le Yehush rétroactif ne marche pas.
Ça change quoi puisque la personne, elle le garde avec elle, comment elle va savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a perdu?
Quoi?
Celui qui l'a perdu.
Évidemment quelqu'un l'a perdu.
Bah, tu
l'as trouvé.
Attends. Mais normalement, si tu me dis, il faut le déclarer dans un endroit.
Je vais le déclarer, je vais mettre des annonces.
Si tu ne déclares pas, ça ne marche pas.
Bien sûr, il faut le déclarer.
Ah,
ah bah oui. Mais là, ça peut être un objet sur lequel il n'y a pas de siman.
D'accord, il n'y a pas de siman.
Très bien.
Je le déclare.
Oui.
J'attends un certain temps.
Oui.
La personne qui a fait doit aller normalement aux objets trouvés.
Oui.
Si elle n'a pas fait Yehush normalement. Bon. Et là, qu'est-ce
donc,
que
donc voilà. Ah, c'est une bonne question. Ça on verra dans la suite. C'est une bonne question que tu poses. Pardon. S'il n'y a pas de siman, je trouve quelque chose, il n'y a pas de siman. Et je sais que le propriétaire n'aura aucun moyen de nous retrouver, puisque un billet de 100 euros et un autre billet de 100 euros, ils se ressemblent. Ça, c'est une bonne question, on verra par la suite.
On est obligé de déclarer quand il n'y a pas de siman.
On verra dans la suite, c'est une bonne question ce que vous posez aussi. Pas forcément, pas dans tout. Pas forcément.
Si c'est un lingot d'or sans numéro...
Non, parce que par exemple, on trouve un billet, il n'y a pas de siman. Trouve un billet, il n'y a pas de siman.
Si, on peut mettre le numéro de billet, mais qui a noté les numéros de ces billets?
C'est une bonne question, c'est une bonne question ce que vous posez. Est-ce que... Alors, bon, des fois, ça peut être facile. Par exemple, je peux dire, j'ai trouvé une somme d'argent.
Combien?
Je peux dire, j'ai trouvé...
Une enveloppe avec 100 au centime.
Non.
Ah oui.
Je dis, j'ai trouvé une somme d'argent. Celui qui l'a perdu peut venir le retrouver chez moi. Donc, il va venir quelqu'un, va venir voir, il va me dire, voilà, j'ai perdu de l'argent. Je dis, oui, combien t'as perdu? Il va me dire, j'ai perdu 150 euros. Je dis, oui. En combien de billets c'était? Il va dire, alors, il y avait 5 billets de 20 et un billet de 50. Je dis, oui, effectivement, c'est ça ce que j'ai trouvé. Ça s'appelle un siman, ça.
Et où ça?
Non, c'est pas si mal,
si, c'est un si mal.
Non, le gars, il peut plus...
C'est pour ça que je vous dis, ça, on n'a pas encore analysé.
Je me rappelle pas, moi, j'ai pas fait attention.
Non,
mon personne m'a donné un compte.
Je me dis, j'ai perdu mon portefeuille, il y avait un billet de 50 et deux billets de 20.
On va dire.
Moi, j'entends, je vais...
Alors, ça, on verra dans la suite, bon, ça. On verra que la quantité, etc., ça peut être considéré comme un
si mal.
C'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, une seconde, je conclue. Tufta des Rava, Tufta. Dans le cas du fleuve, c'est pas la même chose. Dans le cas du fleuve, on a eu la semaine dernière, l'objet pouvait être retrouvé, parce que c'était une grande poutre. Et la poutre, ça flotte. Donc tu sais que même si ça va être perdu, même si ça va être perdu de moi, mais ça finira par atterrir chez quelqu'un d'autre, obligatoirement. Le fleuve, d'accord? C'est sûr que cette poutre-là...
Mais la rue aussi?
Non. La rue aussi, tu as raison. La rue aussi, ça finira par atterrir chez quelqu'un d'autre.
Dit que
mais le portefeuille dans le fleuve, c'est sûr qu'il sera perdu pour tout le monde. Statistiquement, c'est perdu, c'est fini.
Non, mais seulement en bas, c'est sans confusion.
Donc je conclue. La Gemara a dit, Ve'il chetak avate d'abaye. De manière générale, la lacha est toujours comme Rava. En général. Mais la halakha est comme Abaye. Là, on a bloqué Abaye. La halakha, on a bloqué Rava, pardon. Ve'il chetak avate d'Abaye. La halakha est comme Abaye. Dans 6 cas, dans le chasse. Dans le Talmud. Ve'ya'al kagam. Ça, c'est les initiales des 6 cas. Je conclue avec ça. D'accord? C'est quoi les 6 cas? Alors, je vous dis les 6 cas. Bon, c'est les initiales. De toute façon, on ne va pas les étudier, c'est quand même, je vous dis rapidement. Le premier cas, c'est le yud. Ya'al kagam. D'accord? Yud, c'est quoi le cas du yud? C'est quoi yud? Yud, c'est Yehush. Donc ça c'est le cas qu'on vient d'apprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a appris? C'est quoi la vie de Abaye? La vie de Abaye, c'est que Yehush rétroactif.
Ça marche pas.
Deuxième cas, Raïn. C'est quoi Raïn? Raïn, c'est le cas de Edim Zomemun. Et là, ça va être intéressant parce que Abaye et Rava vont penser le contraire de ce qu'ils ont pensé ici. C'est quoi le cas de Edim Zomemun? Le cas de Edim Zomemun est comme ça. Si il y a deux témoins qui viennent témoigner contre moi, par exemple, au tribunal. D'accord? Ils viennent témoigner quelque chose contre moi. Et que moi, après, je trouve deux autres témoins qui vont témoigner que le témoignage de ces deux témoins ne peut pas être bon parce que ce jour-ci, à telle heure, ils étaient à Lyon. Donc impossible. Comme le cas de l'affaire, comment il s'appelle l'autre là-bas? Tapi. Hein, ils ont dit...
Votre carte bleue, vous avez payé là-bas.
Vous avez payé là-bas, et impossible, même en roulant à 200 km/h, c'est impossible que vous étiez là. D'accord? Bon. Donc,
Je vois le louche, mais je vois pas Tapi, moi.
Le cas de Edim Zomemun. Ah, parce qu'une fois, j'ai parlé de Zomemun, on va parler de Tapi.
Ah.
Le cas d'Edim Zomemun. Edim Zomemun, c'est quand il est témoin, donc on a dit qu'ils ont été, ça veut dire, donc vous, dans ce cas-là, vous deux, vous devenez Edim Zomemun. D'accord? Vous devenez des témoins qui ont été cassés. Il y a une marque entre Abaye et Rava. Un marque entre Abaye et Rava, c'est à partir de quel moment on considère qu'ils sont Zomemun? Est-ce qu'on considère qu'ils sont Zomemun à partir du moment où leur témoignage a été cassé? Ou bien on considère qu'ils sont Zomemun rétroactivement depuis le moment où ils ont témoigné? Et là, ce qui va être intéressant, c'est que Abaye et Rava, on peut avoir des différences.
Mais ça change quoi?
Ça change dans plusieurs cas. Ça change dans plusieurs cas, parce que par exemple, si entre-temps, si entre ce laps de temps-là, ça peut durer des années, un jugement. Si pendant ces années-là, vous avez témoigné sur d'autres choses,
ouais.
Est-ce qu'on considère que pendant toutes ces années-là, vos témoignages étaient faux ou pas?
Ah ouais.
Ça change tout, c'est un château de cartes. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que Abaye et Rava pensent le contraire de ce qu'ils ont pensé ici. Abaye pense qu'ils sont homémines rétroactivement, et Rava pense qu'ils ne sont pas homémines rétroactivement. Et là, dans ce cas-là, toujours la lachaï comme Abaye. Bon, encore une fois, je développe pas ces cas, parce que chaque fois, il y a des raisons particulières. D'accord? Troisième cas, on a dit l'amed. C'est quoi l'amed? L'amed, c'est le concept de l'échi à Omed Meelav. Alors, c'est quoi le concept? Le concept d'un, c'est un mavoï, une impasse. Une impasse. Il y a une halakha que quand on a une impasse, donc vous avez une impasse, d'accord?
C'est un creux, quoi.
D'accord? Vous avez une, on a des impasses dans Paris, on a beaucoup d'impasses. Vous avez une impasse, et donc l'impasse, naturellement, il y a une porte dans l'impasse, puisqu'on rentre dans l'impasse. Alors la halakha est comme ça, que si on met une ficelle ou une poutre au-dessus de la taille où les gens peuvent passer, ça veut dire comment? En d'autres termes, on forme une porte. Dans ce cas-là, on peut déplacer à l'intérieur du mavoï.
C'est devenu
un domaine privé, entre guillemets. Alors la question qui a été posée, c'est si c'est un léhi à Omed Meelav. Si c'est un panneau qui tient par lui-même. Par exemple, on a un arbre qui a poussé, d'accord? Et l'arbre, avec la force des choses, il forme une porte. Est-ce qu'avec les branches, ça forme une porte? Ça s'appelle un léhi à Omed Meelav. Est-ce qu'on considère que c'est une porte? Est-ce qu'on considère pas que c'est une porte? Marloket, Abaye et Rava. D'accord? Selon Abaye, un léhi naturel, ça veut dire un léhi sauvage, j'ai envie de dire. D'accord? Une poutre, ça veut dire c'est devenu une porte, mais c'est sauvage.
Un bout de bois qui est tombé d'un arbre.
C'est sauvage, c'est pas été créé. Selon Abaye, c'est considéré comme une porte. Selon Rava, non. L'alakha est comme qui? L'alakha sera comme Abaye. Non, je vous dis les cas, parce que c'est la
gmara. Pour la Zika, on demande que...
Je rentre pas dans ces cas, juste je vous dis les cas. D'accord? Quatrième cas, le cas de Kouf. C'est quoi Kouf? Kouf, c'est l'initiale de Kiddushin. C'est quoi le Kiddushin? Kiddushin, c'est le cas de qui est écrit dans Kiddushin. Kiddushin, c'est le Nimsiru Levia. Si une personne, d'accord, se marie avec une de deux sœurs, par exemple, il y a deux sœurs qui sont ici mariées, deux sœurs, d'accord, il y a deux sœurs, et je dis, je me marie avec une des deux sœurs. Et je mets de l'argent, je pose de l'argent ici, je pose une bague, je dis, je me marie avec une des deux sœurs. Le problème, c'est que c'est impossible de marier avec les deux sœurs en même temps. Parce qu'on n'a pas le droit. Dans la Torah. Très bien. Alors, c'est quoi le problème? Donc ça s'appelle des Kiddushim chez l'Odim Seru Leviya. Ces deux femmes me sont interdites. D'accord? Ces deux femmes me sont interdites.
En même temps.
Oui, parce que le problème, c'est que moi, j'ai pas déterminé avec qui je me mariais.
C'est bizarre, toi aussi.
Bon, c'est un cas qui s'est passé. Quelqu'un a dit, je me marie avec une des deux sœurs. Faut pas oublier qu'à l'époque, des fois, les gens, ils se mariaient déjà depuis qu'ils étaient enfants. D'accord, quand on mariait, il dit, bon, je me marie avec une de tes deux filles. C'est des cas qui pouvaient arriver à l'époque sans problème. C'était très fréquent, des choses comme ça. Donc il dit, je me marie avec une de tes deux filles. Le problème, c'est que, il peut pas se marier avec les deux filles en même temps, puisque c'est des sœurs. Donc, il peut avoir des relations avec aucune des deux. Pourquoi? Parce que, chacune des deux, peut-être que, en vérité, il était marié avec l'autre, et elle, c'est la sœur. Vous me suivez? Très bien. Alors, il est marqué entre Abaye et Rava, est-ce que ces deux femmes-là ont besoin d'un guet? Est-ce qu'il faut les divorcer? Qu'est-ce qu'il pense Abaye? Abaye, il pense...
Il s'est marié.
Bon, voilà, c'est ça que tu avais dit.
Comment il s'est marié?
Il s'est marié, ça veut dire que, par exemple, il a mis de l'argent, d'accord? Il a donné de l'argent au père.
Il a fait le contrat.
Il n'y a pas eu cohabitation. C'est possible que ses fils étaient petits.
Il connaît la roupa, s'il veut.
C'est-à-dire qu'ils ont 5 ans. Il peut se marier à partir de 3 ans. Il donne de l'argent au père, il dit, voilà, je me marie avec une de tes deux filles.
C'est bizarre que dans le contrat, il n'y a pas marqué le nom.
Il n'y a pas de contrat. Qui a dit contrat? Il n'y a pas de contrat.
Tu me dis, il a fait un papier, il a fait le contrat.
Il n'a pas fait de contrat, pas du tout. Qui a dit contrat?
Un engagement.
J'ai pas dit contrat, moi.
Ça marche pas.
Moi, j'ai pas dit contrat.
Il a donné de l'argent au père.
Il a donné de l'argent au père. Acquisition, voilà, je me marie avec une de tes deux filles. Lui, il ne savait pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il dit à Abaye? Abaye, il dit que c'est des... Alors, ça s'appelle des Kiddushim chez l'Onim Seru Leviya. Ça s'appelle des Kiddushim, mais que jamais tu pourras avoir des relations avec aucune des deux femmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations avec deux sœurs. Et dans chacune des deux, on a un doute. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Abaye dit, c'est quand même des Kiddushim. Et il faut divorcer. T'es obligé de divorcer, c'est sûr. Mais il faut divorcer.
Alors,
Rava dit, c'est même pas des kiddushin depuis le départ. Parce que puisque à aucun moment donné, tu pouvais avoir des relations avec une des deux femmes, donc les kiddushin n'ont jamais commencé. Dans ce cas-là, l'alakha sera toujours... Donc pas de guet, pas de kiddushin. L'alakha est toujours comme Abaye. Abaye dit qu'il faudra donner un guet. Cinquième cas, le cas de Gilu Data Begita. Alors, ça veut dire quoi? C'est toujours, on parle toujours d'un cas de divorce. Un mari qui a envoyé un guet à sa femme. Il envoie un guet à sa femme. Il n'est pas là, il habite en Amérique, il envoie un guet à sa femme. Avant que le guet arrive dans la main de sa femme, il a montré, avec un certain signe...
Je
d'accord,
l'aime
d'accord, exactement, que... il voulait pas la divorcer. D'accord? Et entre-temps, il est mort.
Oh mince.
Alors maintenant, on ne sait pas. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que le guet n'est pas encore arrivé dans la main de la femme. Mais le mari n'a pas dit explicitement qu'il a annulé le guet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le guet est cachère ou le guet n'est pas cachère? Selon Abaye, le guet est cachère. Tant que la personne n'a pas dit explicitement j'annule le guet est cachère. Selon Rava, le guet est annulé. Dans ce cas-là, la chaise sera toujours comme qui? Comme Abaye. Sixième cas, le cas de Mouma. C'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui fait des Averot, mais il fait des Averot pas pour gagner de l'argent, ou bien pas par plaisir. Il fait des Averot pour embêter Akadosh Baruch Hu. Est-ce que cette personne-là est inapte témoignage, ou est-ce que cette personne-là est apte témoignage? Abaye pense que cette personne est inapte témoignage. Rava pense que cette personne est apte témoignage. La halakha est comme qui? Et d'ailleurs, on sait très bien, la halakha est comme Abaye. Dans tous les autres cas du chasse, la halakha sera comme qui? Quand il est marqué à Abaye Rava, la halakha sera toujours comme Rava. Toujours.
Il
n'y a que ces 6 cas-là.
Combien de fois il intervient Rava dans le Marloukès?
Des centaines de fois.
Combien?
Quoi?
Des centaines. C'était la question
qu'il a posée d'un cours, ouais. D'accord? Donc, Marloukès, Abaye Rava, donc on a conclu que Yehou Shulamidat, Yehou j'ai trop actif, M. Daniel, ça marche ou ça marche pas?
Yehou j'ai trop actif.
L'alakha est comme Abaye, que ça marche pas. Quand non, les 6 cas, c'est pas du jeu 3 types. Les 6 cas, c'était des cas qu'on a vu.
En général.
Voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Très rare. Voilà, bon, j'ai fait un cours un peu plus long aujourd'hui, mais parce qu'il fallait, je voulais finir le sujet.